Cher monsieur les abbés, chers pèlerins bretons, lorsque les organisateurs de ce pèlerinage m'ont invité, ils m'ont demandé si ce n'était pas un trop grand sacrifice que de venir du fin fond de la Provence. J'aurais dit non, pour aller en Bretagne, c'est jamais un sacrifice. Je suis né à 20 km d'ici à Val. Et à la fin de ce pèlerinage breton, nous célébrons la messe de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et là, on se pose une petite difficulté, vous savez laquelle? Parce que votre pèlerinage a été mis sous la protection des saints bretons et celtes, particulièrement en Saint-Herbeau et Saint-Fiacre. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'est pas bretonne, même si elle est la plus grande sainte des temps modernes, elle n'est pas bretonne, elle est normande. Et c'est un problème supplémentaire pour les bretons. Mais cette petite difficulté sera vite résolue si nous cherchons la véritable source de la sainteté. La sainteté vient-elle de la terre? Alors oui, nous dirons les écologistes. Vient-elle de la mer? Vient-elle des paysages, des cultures? Est-ce qu'elles viennent du Guignou et de la Grande Muse? Eh bien non, toutes ces choses peuvent être saintes, mais la sainteté ne vient pas de là. La sainteté vient de Dieu. C'est Dieu seul qui est saint, et c'est Dieu seul qui peut faire de nous des saints, et c'est pour ça que la sainteté peut être partout. La sainteté de Dieu, elle n'est ni bretonne, ni normande, ni française. Et j'oserais dire même que la sainteté n'est pas galiléenne de ce pays où est né Jésus notre Seigneur. La sainteté vient du ciel, elle vient de Dieu. Et elle vient de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est incarné pour la répandre dans notre cœur. Et maintenant, je voudrais vous poser la question de savoir ce qu'est la sainteté. Alors, il y a des enfants qui me diraient, là j'en vois quelques-uns devant, la sainteté me dirait, oh ben c'est simple, c'est une auréole. C'est une auréole qui a sur la tête. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que la sainteté? Alors, certains bretons pourrait me dire, ah mais la sainteté c'est simple, c'est comme l'hermine bretonne, cette petite bête, qui préfère mourir plutôt que de se salir. Ah c'est pas mal, mais ce n'est pas ça, et ce n'est même pas ça du tout, puisque Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle, a osé se salir, puisque elle s'est mise à la table des pécheurs. Et Jésus lui-même a mangé avec les publicains, les pharisiens et les pécheurs. Donc ce n'est pas ça. Certains théologiens me diront, la sainteté c'est la vertu, ces bonnes habitudes que l'on contracte par des actes volontaires, avec la grâce de Dieu, la foi, l'espérance, la charité, avec tous les actes que l'on peut faire, la sagesse, l'intelligence, la science, la force, la tempérance, la justice, la force surtout, n'est-ce pas, les garçons? Eh bien, c'est mieux, mais ce n'est pas tout à fait ça. Des exégètes nous diront, mais la sainteté, qu'est-ce que c'est? C'est la charité, c'est l'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Puisque Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et que notre Seigneur nous a donné l'exemple qu'il est mort. Il est mort sur la croix. Et que beaucoup de martyrs sont passés jusqu'à ce grand sacrifice. Eh bien c'est vrai, mais je voudrais vous donner une image, un résumé de la sainteté que vous pourrez garder fidèlement dans votre esprit. Cette image, c'est le cœur. Le cœur qui fait battre, qui fait vivre tout le corps et même la tête. Le cœur est la source de la sainteté parce qu'elle fait vivre tout le corps et même la tête. Alors permettez-moi, mes chers enfants, de vous faire un peu d'anatomie. Vous savez ce que c'est que l'anatomie? C'est quand on regarde ce qu'il y a dans le corps et comment ça fonctionne. Donc, on va regarder avec un télescope. Et qu'est-ce qu'on voit dans le cœur, les enfants? On voit que le cœur a une certaine forme. Et si on regarde dedans, on voit qu'il y a combien de parties? Et il y en a quatre. Quatre parties. Il y en a deux en haut et deux en bas. Ou alors deux à droite, deux à gauche. Je ne sais pas comment vous voulez. Alors il y en a qu'on appelle ça les oreillettes. Et puis d'autres qu'on appelle les ventricules. Alors la sainteté, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un cœur qui bat avec quatre parties. Je vous livre la clé du mystère. La sainteté, c'est de faire battre son cœur avec ses quatre parties qui sont être un digne fils. Pas de sainteté sans être un digne fils. Ou une sainte fille. Parce que je vois qu'il y a des garçons et des filles. C'est d'être un bon époux. Une bonne épouse. La sainteté n'est pas désincarnée. Ce ne sont pas des vertus qui ne servent à rien. Elles sont là pour nouer des relations. Donc fils, époux, épouse, père et mère, c'est la troisième partie. Et la dernière partie, c'est d'être des bons frères. Voilà les quatre parties du cœur qui font de vous des saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu ce chemin de sainteté depuis sa tendre enfance jusqu'à sa mort. Alors tout d'abord, être un bon fils, et c'est sans doute le plus important. Nous savons bien que le diable n'a de cesse de travailler à anéantir dans les cœurs des hommes la piété filiale. La Révolution française, mai 68, toutes les dictatures, le nazisme, le communisme, ou même le libéralisme actuel, veulent déraciner les hommes. Et c'est là le travail de Satan. Et nous pouvons, mais nous pouvons prétendre à la sainteté, à cette condition primordiale, se reconnaître fils et fille de Dieu. Jésus a vécu sur la terre, sur notre terre, d'abord et avant tout, comme le fils de Dieu, le fils de son Père. Et qu'est-ce que fait un fils? Eh bien, il écoute son père, il écoute sa mère, il le prie, il lui obéit. Il fait tout ce que le père lui demande de faire. Et il sait qu'il a tout reçu de lui, qu'il reçoit tout de lui à chaque instant. Chers pèlerins, vivez cette sainteté primordiale en vous tournant d'abord vers le Père comme de dignes fils et de dignes filles de Dieu. Apprenez à le connaître de plus en plus. On s'étonne parfois de découvrir ses parents sur le tard. On se dit qu'on ne les connaissait pas assez. Avec Dieu, c'est toujours vrai. Apprenez à le vénérer comme vous vénérez vos parents, à le louer par l'adoration. Et ayez surtout pour vos parents de la gratitude et pour Dieu encore plus. N'ayez jamais peur de Dieu et n'ayez jamais peur de sa sainte volonté, car Dieu seul est un bon Père et Dieu sait ce qui est bon pour nous. Aujourd'hui, comme hier, il n'est pas facile d'être un fils, mais c'est non seulement possible, mais c'est l'exemple de tous les saints. Et c'est aussi un chemin incontournable. Aucun saint ne peut l'être sans vivre cette relation filiale avec le Père, notre Père qui est aux cieux. Et je vous félicite tous du fond du cœur de votre piété filiale bretonne, de votre fidélité joyeuse aux saintes traditions qui ne sont pas, comme certains le disent, une nostalgie du passé, mais une piété filiale qui veut garder le sens du sacré. La deuxième dimension de la sainteté, c'est le mariage, la sponsalité. Depuis plusieurs décennies, nous voyons avec joie la canonisation et la béatification d'époux. Mais depuis toujours, l'Église a canonisé ou béatifié des vierges comme épouses du Christ. L'âme, pour se sanctifier, est appelée à épouser le mystère du Christ. Le mariage est autant humain que spirituel, que divin. La sainteté, finalement, c'est une âme qui se marie au Seigneur et qui voit le Seigneur se donner totalement à nous. Lorsqu'on a fait cette expérience spirituelle, que Dieu se donne totalement à nous dans sa parole, dans ses sacrements, on commence à vivre le mariage spirituel. Je vais vous raconter une petite histoire, mes enfants. C'était, il n'y a pas très longtemps, à l'abbaye du Barou, chez les Moniales. Et au cours de la cérémonie, une des moniales devait recevoir la consécration des vierges. C'est une cérémonie qui est absolument magnifique. Au point de vue liturgique, c'est une des plus belles liturgies, plus belle que messe pontificale. Et à un moment, la moniale chante, non, c'est plutôt le prélat qui préside et qui remplace Jésus, qui lui dit en chantant Véni, viens la colombe, viens la colombe. Et alors, c'est en latin. Et puis la moniale répond oui, je viens, rendez-vous. Et puis on leur lui donne une couronne de fleurs sur la tête. Et puis un anneau, comme les parents, comme vos parents ont hein, l'anneau de mariage, l'alliance, on appelle l'alliance. Et elle le monte fièrement. Et tout se faisait dans une grande sérénité, une grande sacralité, belle cérémonie. Et patatras, tout d'un coup, on entend un cri d'une petite jeune fille qui avait à peu près 7 âges-là et qui crie « Mais avec qui elle se marie, tante Madeleine ?» Et alors, on répondait à la petite de se taire. Et pourtant, c'est elle qui avait bien compris ce grand mystère. Elle venait bien de comprendre ce qui se passe dans la consécration des vierges. Et je tiens à préciser que ce mariage n'est pas réservé au monial, il est pour chacun d'entre vous, surtout quand vous recevez la Sainte Communion, le Seigneur se donne totalement à vous et vous pouvez vous donner totalement à lui. J'en viens maintenant à la paternité, et à la maternité, c'est la troisième dimension du cœur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a vécu. Aujourd'hui, cependant, nous voyons avec grande tristesse que la paternité et la maternité sont profondément blessées. Le diable a de la haine contre la paternité et la maternité. Et au lieu de cela, de ce grand rôle que nous a donné le Seigneur, nous voyons la multiplication des individualités souvent irresponsables. C'est vrai que la paternité a mauvaise presse en raison de tous les abus qu'il y a pu avoir dans le monde et dans l'Église. Quand on pense que Staline se faisait appeler le petit père des peuples, on peut trembler. Et puis il y a tous les scandales que vous connaissez. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des abus que la paternité doit être reléguée dans les oubliettes du passé et rejetée comme un danger. Je m'adresse à tous les jeunes garçons, particulièrement aux adolescents. À l'école, on vous apprend les maths, l'histoire, on vous apprend l'économie. L'économie, c'est important, ça. L'économie, ça va faire de l'argent. Bien. On vous apprend la mécanique, on vous apprend le sport. C'est bien tout ça. Mais vous devez apprendre, chers jeunes hommes, jeunes garçons, vous devez avant tout apprendre à devenir des chefs de famille. On ne dit plus jamais ça. Oh non, mais l'homme et la femme sont égaux, donc tout le monde fait ce qu'il veut. Non. Tout garçon a pour vocation universelle de devenir un chef. Un chef de famille qui prend ses responsabilités et qui décide pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien commun de sa famille, de sa famille propre, de sa famille élargie. Et vous, chère jeune fille, apprenez à être de future mère sainte, sachant conseiller avec parfois beaucoup de charme et de ruse vos époux, le père de vos enfants. Apprenez à donner la vie et à éduquer vos enfants. Et sachez tous que, comme l'a dit saint Benoît, vous aurez, il le dit pour le père Abbé, vous aurez des comptes à rendre pour chaque âme que Dieu vous a confiée et que, d'un autre côté, le Seigneur vous rendra au centuple tous les sacrifices que vous aurez faits et que chaque parent peut s'attendre à une gloire éternelle dans le ciel pour tout ce qu'il aura fait pour vous, ses enfants. Et sainte Thérèse de l'enfant Jésus lui-même, qui n'a pas eu d'enfant biologique, mais elle a donné toute sa vie pour être mère spirituelle, mère des âmes. Et elle s'est offerte en holocauste pour sauver les âmes. Et elle ne s'en est jamais repentie. Elle a même demandé au Seigneur la grâce de devenir mère universelle dans l'ordre de la grâce. Incroyable, un privilège marial. Et elle savait qu'elle pouvait le faire parce que elle pouvait être mère universelle parce que son époux était le Fils. Et elle l'a fait sachant tout ce que cela lui coûterait en épreuve. Et je finis par la quatrième partie du cœur, la fraternité. On vous parle beaucoup de fraternité en ce moment, fraternité tutti, vous connaissez bien. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu cette dimension un peu sur le tard, à la fin de sa vie. Et alors, une fois avant, vous connaissez peut-être cette histoire, mais il y avait dans sa communauté une vieille sœur acariate. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Et donc, toutes les sœurs du couvent, pardonnez, c'est pas possible, une religieuse acariate, c'est pas possible. Ben si, possible. Même des moines à Carillac, on a qu'un peu. Je vous jure que c'est possible. Mais il y en a aussi qui sont angéliques. Et alors, il y avait une vieille sœur qui était très à Carillac, et toutes les sœurs, elles n'étaient pas là. Non, même pas la croisée dans le couloir, tellement elle était sur la table. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a fait en sorte de lui réserver ses plus beaux souhaits. Et la sœur a fini par croire qu'elle était la sœur préférée. Donc c'était quelque chose d'héroïque de la part de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais c'était vraiment le chemin de la fraternité. Elle avait compris ça sur le tard. Puisque Dieu est notre père, alors nous sommes tous prêts à même vis-à-vis des personnes qui sont désagréables. Alors c'est un petit danger parce que quand vous allez sortir, il y a le mari qui va faire un bon sourire à sa femme, il va se dire, mais bon, on va voir si ça va cacher la carte. Non. Je vais finir mon obéir par un très bel exemple. C'est une légende qui n'est pas bretonne. Il n'y a pas que breton qui ont des légendes, mais c'est une légende. Ça se passe à Jérusalem, avant la construction de la ville, avant la construction du temple. Et il y avait deux frères juifs qui vivaient l'un à côté de l'autre, à quelques dizaines de mètres. Ils avaient chacun leur maison. Et il y en avait un qui n'était pas marié. Et l'autre était marié avec plein d'enfants, une femme en plein d'enfants. Et puis un jour, il y a eu une famine, et deux frères se sont endormis chacun dans sa maison et ils ont essayé de dormir mais ils n'y arrivaient pas. Le frère qui n'était pas marié n'arrivait pas à trouver sommeil parce qu'il était très inquiet de ce qui allait arriver à son frère. Comment va-t-il faire? Il a sa femme qui mange et ses enfants, ses 10 enfants qui mangent, qui mangent, qui mangent. Comment va-t-il faire? Moi, j'ai une personne à mourir. Et là, il y avait encore un sac de grain. Donc, il prend son sac de grain et en achète la mettre devant la porte de la maison de son frère. Et puis, son frère, de l'autre côté, n'arrivait pas à dormir. Il disait, mais comment on va faire mon frère pour manger? Il n'a pas de famille, pas de garçon pour l'aider. Il est tout seul, mais comment va-t-il faire? Et là, il a cherché, il a trouvé un sac de grain, j'ai dit, qui me restait. Et en cachette, il était le mettre devant la porte d'entrée de son frère. Et le matin, quand les deux frères ouvrirent la porte, ils trouvèrent un sac de grain. Et on dit que le Seigneur, Dieu l'unique, voyant ça, étant charmé par cette charité fraternelle, a décidé que ce lieu se dépassait ce grand mystère, eh bien, construisait un jour son temple. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.